En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Canal Académie vous propose d'écouter 5 interventions d'académiciens des sciences morales et politiques et de l'Académie pontificale de Rome dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu. Celui-ci s'est déroulé à la Fondation Simone et Cino del Duca à Paris les 24-25 janvier 2008 en lien avec l'Institut de France et l'Académie pontificale. Jean-François Bach, immunologiste, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, développe pour nous la question des vrais jumeaux et de la différence et des ressemblances sur un plan génétique. On l'écoute.
Il y a plusieurs types de jumeaux, comme vous le savez. Il y en a essentiellement deux types, monozygote et dizygote, qu'on appelle tout simplement les vrais et faux jumeaux. Il y a même un troisième type que j'évoquerai brièvement, enfin cela est un point de détail. Donc les vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, résultent de la division très précoce, donc de l'œuf, en deux cellules identiques qui vont après donner lieu à deux embryons distincts qui se développeront côte à côte au sein de l'utérus maternel. Ce qui est important, c'est que au départ, bien sûr, le patrimoine génétique est absolument identique. Bon, il peut y avoir certaines différences, je ne vais pas rentrer dans ces discussions. J'en parlais avec Claude Sureau il y a un instant sur le fait que les jumeaux puissent être monodichorioniques, ce qui peut... C'est pas sans importance, parce que... Mais c'est pas le sujet de ma discussion. C'est pas sans importance parce que dans certaines de ces situations, il peut y avoir une asymétrie de perfusion et qui peut entraîner des différences physiologiques, biologiques entre les jumeaux, mais c'est pas le fond de ma question. Donc, des patrimoines identiques. Alors, on se pose tout de suite la question de savoir si, finalement, ces vrais jumeaux pourraient être l'équivalent de ce que l'on a réussi dans plusieurs espèces animales aujourd'hui, et maintenant dans nombreuses, c'est le clonage reproductif. La question se pose, finalement, de savoir si deux vrais jumeaux sont absolument l'équivalent de deux clones obtenus par le clonage reproductif. Alors, il y a des différences. Parce que quand on fait un clonage reproductif, il y a un transfert nucléaire dans un ovocyte, et le cytoplasme de l'ovocyte peut induire des modifications chimiques dans les constituants du noyau transféré. En plus, le développement intra-utérin se fera dans des conditions, bien sûr, très différentes par définition, puisque le donneur est déjà un animal, donc un particulier abouti. Il est intéressant de noter, j'ai eu l'occasion de m'en entretenir récemment avec Jean-Pierre Renard, qui est sans doute un de nos meilleurs spécialistes français du sujet. Finalement, toutes les différences que l'on aurait pu penser survenir entre les clones ainsi produits, je pense notamment aux modifications épigénétiques sur lesquelles je vais revenir à la fin de mon exposé, je pense au problème des télomérases par rapport au vieillissement, n'apparaissent pas comme fondamentales. Et dans une large mesure, les clones obtenus par clonage reproductif chez l'animal sont l'équivalent des vrais jumeaux dont nous connaissons l'existence chez l'homme et dans d'autres espèces. C'est un peu compliqué dans d'autres espèces, qu'il y a des espèces comme le tatou à 5 ventres, qui est une espèce où les vrais jumeaux existent de façon presque régulière. Dans les autres espèces, c'est plus difficile parce que souvent, il y a des portées multiples, il est difficile de repérer les vrais jumeaux parmi les autres, donc il n'y a pas d'études vraiment très, très importantes. Mais, donc, si on compare le clonage reproductif dans différentes espèces et les vrais jumeaux chez l'homme, on peut arriver à la conclusion qu'on est finalement dans une situation assez comparable. Il y a en quelque sorte une remise à zéro des phénomènes qui auraient pu modifier le clone par rapport à l'animal dont il est issu. Notamment, il n'y a pas, contrairement à ce qui avait été dit précédemment, un raccourcissement de la longévité de ces clones par rapport à l'animal initial. Donc ça, c'est le cas des vrais jumeaux qui ont donc un patrimoine génétique totalement identique. Alors, je passe très brièvement parce que c'est pas mon sujet aujourd'hui, mais il faut les citer. Les vrais jumeaux, eux, sont issus de la fécondation de deux ovules distincts par deux spermatozoïdes. Et donc là, on se trouve dans une situation pratiquement équivalente à celle des frères et sœurs ordinaires, avec la différence, bien sûr, qu'ils ont eu un développement utérin, ils ont une vie commune intra-utérine, et donc ils ont partagé, puis qu'ils partagent un peu plus, peut-être, de leur éducation et que le font de frères et sœurs ordinaires. Le troisième cas, je le cite, parce que c'est intéressant, c'est un cas un peu exceptionnel, il y a des cas de fécondation d'un ovule par deux spermatozoïdes. Et l'œuf va prendre, va être constitué de fragments de chromosomes qui viennent de l'un ou l'autre des spermatozoïdes. C'est une sorte d'être hybride, un peu particulier. Mais je n'insiste pas, l'important, c'est que dans les vrais jumeaux, dans cette troisième catégorie exceptionnelle, finalement, il y a un partage que partiel de 50% du génome du père, dans la mesure où, bien sûr, il n'y a que la moitié des allèles qui sont partagés. Alors, pourquoi ces jumeaux sont-ils tellement intéressants? Cela est assez évident. En fait, nous sommes dans une situation où le patrimoine génétique est identique, donc on peut partir a priori de l'hypothèse que tout ce qui va différencier ces deux jumeaux va relever de leur vie post-natale pour l'essentiel, en sachant qu'ils auront partagé beaucoup plus d'environnement ou de facteurs environnementaux entre eux que deux êtres pris au hasard ou même deux frères et sœurs ordinaires. Parfois même, la chose est poussée à son, disons, à son extrême par la tendance un peu naïve, il faut dire, de parents qui vont jusqu'à habiller les deux jumeaux de la même façon, et en tout cas les maintenir dans cet esprit de rapprochement extrême. Donc, l'hypothèse de départ est que tout ce qui va différencier deux jumeaux va relever de l'environnement. C'est donc un modèle exceptionnel, parce que pour répondre à la question qui était posée, quel est le rôle respectif de la génétique et de l'environnement, avec la réserve que je faisais il y a un instant. Alors, ayant dit cela, il faut dire quelques mots sur ce qu'on entend par environnement, parce qu'on parle beaucoup d'environnement dans des contextes assez différents. Pour l'écologiste, et on en parle beaucoup aujourd'hui, bien sûr, l'environnement est avant tout physique, chimique, matériel. Pour le généticien, la définition est beaucoup plus large. L'environnement, c'est tout ce qui peut différencier l'exposition, c'est tout ce qui est de différent dans l'exposition d'un être depuis sa naissance, même éventuellement pendant sa vie intra-utérine, par rapport à une autre personne. C'est tout ce qui peut modifier l'expression des gènes, quelle que soit la nature de l'environnement en question, qui peut être physique, chimique, environnement que cite l'écologiste et qui attire toute son attention, mais également, bien sûr, l'environnement biologique, les infections, l'alimentation, l'environnement social, culturel, éducatif. Donc c'est beaucoup plus vaste. Et d'ailleurs, c'est un problème en soi, parce qu'il va être très difficile de différencier dans cet environnement ce qui revient à chacun des facteurs que je viens d'évoquer rapidement. Tout cela étant dit, comment se situent finalement les faits que l'on a pu recueillir jusqu'à maintenant sur les différences observées entre deux vrais jumeaux? C'est un problème difficile pour les raisons que j'ai évoquées, mais il y a quand même beaucoup de données, une littérature extrêmement riche, qui est en plus amplifié par un élément médiatique, parce qu'il est évidemment fascinant de voir de vrais jumeaux. C'est toujours impressionnant, c'est l'objet de romans ou d'autres, parce que c'est... Et en tout cas, il y a même des congrès de jumeaux, comme vous le savez. Les jumeaux se retrouvent entre eux, partagent leur expérience. C'est un problème qui est bien connu. Mais ce qui est moins connu, et d'ailleurs beaucoup moins, qui a été la source d'investigations qui sont de moins bonne qualité qu'on aurait pu espérer, c'est l'étude régulière, systématique des vrais jumeaux pour toutes leurs caractéristiques biologiques ou également cognitives. Alors, ils se ressemblent, les jumeaux, voilà donc une photo de jumeaux, et ce n'est pas un clin d'œil par rapport à une certaine partie de l'auditoire, mais voici ici deux jumeaux qui ont été ordonnés prêtres le même jour. C'est quelque chose de très frappant. En fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que même la ressemblance physique n'est pas absolue. Moi, j'ai toujours été frappé, d'abord, de l'existence de différences, mais inversement, parce que j'ai eu des exemples très proches de moi, de la grande ressemblance, parfois, de deux frères ou de deux sœurs, ayant plusieurs années de différence. J'ai un exemple personnel où je mets au défi les parents de deux enfants ayant 5 ans de différence de les reconnaître, de les distinguer quand ils avaient le même âge sur deux photos sans qu'on leur dise qui est qui. Donc la ressemblance, c'est quelque chose qui repose d'ailleurs sur finalement beaucoup moins de caractères que l'on croit. Les caricaturistes le savent bien, comment ils peuvent nous faire reconnaître tel ou tel personne politique ou autre avec d'un coup de crayon. La ressemblance est un peu, finalement, c'est frappant, mais c'est peut-être moins important que l'on croit. Alors, si on regarde de plus près, et il y a des études qui ont été faites sur ce sujet, on s'aperçoit qu'il y a donc des différences relativement importantes entre les vrais jumeaux. Si on regarde même les paramètres biométriques, c'est intéressant, la biométrie aujourd'hui, on en parle beaucoup, il suffit pour ceux qui ont été récemment aux États-Unis, de regarder la façon dont on nous prend en photo ou dont nous fait, dont on imprime nos empreintes digitales dès demain, etc. En fait, quand on regarde ces paramètres biométriques, ils ne sont pas identiques chez les vrais jumeaux. Ils sont plus proches, bien sûr, entre deux jumeaux qu'entre deux autres personnes, y compris frères et sœurs, mais ils ne sont pas identiques. Il y a des études très intéressantes qui montrent les différences qui sont observées, en particulier pour les empreintes digitales, pour l'iris ou pour la voix, ce qui est peut-être plus attendu. Ce qui pose d'ailleurs la question de la stabilité de ces marqueurs pour un propre individu, donc on revient au problème de l'identité, et qui est un problème qui n'est pas encore parfaitement étudié et qui est bien sûr très intéressant. Alors, quand on regarde d'autres paramètres biologiques, on trouve des... Bien sûr, on peut faire des observations intéressantes. J'ai dit que je ne parlerai pas des paramètres cognitifs, mais je voudrais quand même les évoquer, parce qu'ils sont bien sûr très présents dans vos préoccupations, et je pense qu'il faut en dire quelques mots. Il y a eu des études qui ont été faites, certaines sont résumées sur cette diapositive, qui montrent le fait que certaines attitudes intellectuelles ou psychologiques ou autres sont observées, sont plus semblables entre deux vrais jumeaux que lorsqu'entre deux faux jumeaux. C'est le meilleur témoin, les faux jumeaux, parce qu'ils ont été élevés, donc ils ont eu une vie utérine, intra-utérine commune, ils ont été élevés par les mêmes parents au même moment, donc c'est le bon témoin, le bon contrôle. Donc il y a des différences, pas pour tous les paramètres, je ne vais pas les reprendre ici. Et c'est très difficile, de toute façon, d'interpréter ces données, pour deux raisons. La première que j'ai déjà indiquée, c'est que l'évaluation de tous ces paramètres, l'évaluation quantitative est extrêmement difficile, et en plus, de toute façon, l'environnement est extrêmement semblable, sauf si, et ça, c'est bien sûr quelque chose de très intéressant, si les deux vrais jumeaux ont été élevés séparément dans deux foyers. Alors, je voudrais citer... que l'on peut appeler une histoire, parce que c'est vraiment une histoire qui date du milieu du siècle dernier, qui a défrayé la chronique, que certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est les faux vrais jumeaux de Cyril Burt. Et je cite cette histoire parce qu'elle est informative par rapport au point que je viens de faire. Cyril Burt était considéré comme le plus grand psychologue pédiatrique de sa génération. Il a mis en place beaucoup de ce qui a été utilisé et discuté dans les années à venir, notamment l'évaluation des performances intellectuelles. Et Burt, qui avait été donc reconnu comme le grand expert anobli par la reine, enfin vraiment le personnage de très haute stature, avait fait comme principale observation, ça avait été sa gloire principale, il avait comparé des cohortes nombreuses, importante, une cinquantaine de vrais jumeaux qui avaient été séparés pendant leur enfance. Et ça, c'était relativement fréquent à l'époque parce que dans certains milieux sociaux défavorisés, lorsqu'une mère avait deux enfants, il était difficile de les élever, donc il arrivait qu'on séparait, qu'on lui retirait ou qu'on plaçait un des deux enfants. Donc, il avait comparé des cohortes de vrais jumeaux séparés par des cohortes de vrais jumeaux qui avaient été élevés ensemble, comme c'est le cas habituel. Et il avait observé que, et donné une large publicité au fait que la concordance de la performance intellectuelle du QI, dont il avait été un des fondateurs, était la même que les jumeaux aient été séparés ou non, ce qui l'avait conduit à affirmer le rôle majeur de l'hérédité dans l'intelligence, qui est un sujet dont vous savez à quel point il est sensible et difficile. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu quelques doutes avant sa mort, et après sa mort, quand on a regardé tous ces dossiers, on s'est aperçu qu'il avait créé de toutes pièces les cohortes de jumeaux séparés. Il y avait quelques-uns qui étaient authentiques au départ, mais pratiquement 40 des 50 paires de jumeaux séparés avaient été fausses, n'existaient pas. Bon, alors c'est une triste histoire scientifique, et elle souligne simplement de façon un peu ironique donc la difficulté qu'il y a d'aborder ces problèmes sur lesquels je n'insisterai pas plus que ce que je viens de faire. Alors, quand on se reporte maintenant à des paramètres biologiques qui sont plus, je dirais, plus durs, plus faciles à appréhender, alors là, on s'aperçoit qu'il y a également des différences importantes entre vrais jumeaux, qu'il s'agisse de constantes biologiques diverses, au-delà des marqueurs biométriques que j'évoquais. Et je voudrais ici simplement citer, puisque c'est mon domaine, l'immunologie, ce qui a été observé, c'est des études que nous avions faites nous-mêmes avec Elisabeth Tournier-Lasserve il y a maintenant une quinzaine d'années, sur le répertoire des cellules de l'immunité qui reconnaissent les antigènes. Alors, il faut savoir que les lymphocytes, qui sont responsables de l'immunité, des défenses immunitaires, ont à leur surface, à leur membrane, des récepteurs de reconnaissance pour l'antigène. Ici, c'est représenté pour le lymphocyte B. Donc l'antigène, un agent microbien par exemple, est reconnu par une cellule B, un lymphocyte, qui a des récepteurs pour cet antigène. Et après, ce lymphocyte B se différencie. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui se passe après, des mutations somatiques. Mais l'important, c'est qu'il y a donc un répertoire de reconnaissance qui est assuré par des récepteurs qui ne sont pas le produit d'un seul gène, comme c'est le cas de toutes les protéines. Ce qui est compliqué en immunologie, c'est que la protéine anticorps, ou récepteur des cellules T, est issue de réarrangements de plusieurs gènes présents sur plusieurs segments chromosomiques. Alors, ce que nous avions étudié, nous avions produit des clones de lymphocytes T in vitro chez des frères et sœurs et chez des vrais jumeaux pour regarder si le répertoire des gènes utilisés pour la production de ces récepteurs était identique ou pas chez les vrais jumeaux et comparé à des faux jumeaux ou à des frères et sœurs ordinaires. Et le résultat était très clair. Il y avait beaucoup plus de ressemblances entre les gènes utilisés par ces récepteurs. Je vais donc m'arrêter là sur la comparaison des jumeaux. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je dirais simplement, lorsqu'on étudie des souches pures de souris qui sont élevées dans la même cage toute leur vie, eh bien, qui sont génétiquement identiques, et d'ailleurs homozygotes pour tous les gènes, il y a également des différences importantes, pas seulement pour les réponses immunitaires, mais également pour d'autres paramètres. Que dire des maladies? Alors, des maladies, il faut distinguer les maladies polygéniques et monogéniques. Les maladies monogéniques, elles sont peu sensibles à l'environnement, bien que l'on observe dans certaines maladies comme myopathie du chêne des différences entre vrais jumeaux. Mais en gros, pour être simple, lorsqu'un jumeau est atteint de ces maladies monogéniques, l'autre jumeau l'est également. Ce n'est pas le cas pour les maladies polygéniques, qui sont dues à des polymorphismes de certains gènes, l'association de polymorphismes. Dans ce cas-là, il y a un taux de concordance qui ne dépasse en général pas 50%, qui est plutôt entre 20 et 50% pour les maladies polygéniques pour lesquelles l'hérédité est la plus forte. Pour la schizophrénie, qui n'est pas indiquée ici, c'est de l'ordre de 50%. Pour le diabète, c'est entre 30 et 50%. Ce qu'on peut dire, très simplement, c'est que on connaît de mieux en mieux les facteurs de l'environnement qui expliquent ces différences. Et je ne dirais qu'une chose, c'est que ces facteurs peuvent être soit déclenchants, peut-être une infection, par exemple, qui déclenche une maladie auto-immune, mais peut-être également protecteurs. Donc, c'est le jumeau qui ne fait pas la maladie, c'est parce qu'il a été soumis à des facteurs de l'environnement protecteurs. Il y a d'ailleurs des gènes de prédisposition et des gènes de protection. Donc ça, c'est un sujet qui est parfaitement étudié. J'ai eu plus de temps, je l'aurais illustré par quelques documents, mais je vais les passer, pour arriver au dernier point de mon intervention qui concerne l'épigénétique et le hasard. Alors, l'épigénétique, ça relève d'une observation qui a été faite qui relèvent d'observations qui ont été faites en biologie moléculaire au cours de ces dernières années. On pensait donc, je vous le disais à l'instant, que l'expression des gènes dépendait strictement, exclusivement de la séquence nucléotidique de l'ADN. Et c'est vrai que c'est bien sûr l'élément fondamental. On s'aperçut que néanmoins, survenaient au cours de la vie, et de façon progressive avec l'âge, des modifications biochimiques, soit de l'ADN lui-même, sous la forme de méthylation de certains segments d'ADN, soit de la modification des histones, qui sont des protéines autour desquelles s'enroule le DNA pour former la chromatine. Et ces modifications, il y en a plusieurs sortes, méthylation, acétylation et bien d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est donc que ces modifications épigénétiques vont modifier l'expression du génome. Ces modifications épigénétiques sont transmissibles, je vais en dire un mot, et réversibles. Elles sont transmissibles au moins pendant quelques générations. Je prendrai un seul exemple, c'est l'exemple du trait agouti. Lorsque l'on étudie la couleur du pelage dans certaines souches de souris pures, comme celle que je montrais tout à l'heure, on s'aperçoit de façon inattendue que dans certains cas, la couleur du pelage peut être marron et jaune, suivant que les mères gestantes ont reçu ou non de l'acide folique. Et on peut montrer que cette différence de pelage peut se transmettre pendant 2-3 générations, même si on ne remet pas de l'acide folique dans l'alimentation des mères. Donc il y a un phénomène qui est de façon très curieuse, acquis transitoirement. Ça ne remet pas donc en question la théorie de Darwin par rapport aux théories lamarckiennes, mais ça indique qu'il peut y avoir transmission de caractère acquis pendant un petit nombre de générations. Ce phénomène donc est transmissible, il est réversible, ce qui explique ce que je disais tout à l'heure pour les clones. Alors, lorsqu'on étudie des jumeaux vrais jumeaux, on s'aperçoit qu'il y a des différences épigénétiques. Il y a des différences épigénétiques qui sont d'ailleurs plus nombreuses chez les jumeaux séparés que chez les jumeaux élevés ensemble. Bon, il n'y a pas beaucoup de cas de jumeaux séparés, mais il y en a quelques-uns qui montrent cela. Le problème est de savoir quel est le rôle de l'environnement et du hasard dans ces modifications épigénétiques qui vont modifier de façon importante l'expression du patrimoine génétique. Les résultats actuels apportent des arguments dans les deux sens. Il y a des modifications, des marques épigénétiques qui dépendent de l'environnement, encore qu'on ne sache pas vraiment de la façon dont ça se passe, on ne connaît pas les bases moléculaires, et dans les exemples du type agouti, on ne connaît pas le détail des modifications épigénétiques qui interviennent, mais il y a des situations où tout laisse penser que ces modifications épigénétiques sont l'objet peut-être d'événements aléatoires qui ne sont pas directement liés à l'environnement. Quant au hasard lui-même, je voudrais prendre l'exemple des cancers, mais je viens de l'évoquer aussi à propos d'événements épigénétiques. Les études épidémiologiques les plus récentes indiquent que très probablement une fraction importante des cancers ne relève pas de prédispositions génétiques claires, ne relève pas de l'exposition à un toxique ou à un agent de l'environnement, et serait éventuellement le fait du hasard. C'est peut-être des mutations somatiques malheureuses, fortuites mais malheureuses. Alors il est toujours difficile de savoir quel est le rôle de l'environnement dans l'expression du hasard, mais il y a quand même des faits tout à fait importants qui vont dans ce sens-là. Alors, si je conclue, j'arrive à la notion, finalement, que, évidemment, le patrimoine génétique est essentiel, que l'environnement est un rôle tout à fait majeur, au moins pour l'expression de certains paramètres, pas tous. J'ai cité l'exemple des maladies monogéniques où l'environnement joue un rôle mineur, mais il y a d'autres situations où, bien sûr, il en est différemment, et se rajoute ces modifications épigénétiques qui peut-être expliquent les différences de ces empreintes digitales dont je parlais, qui sont transmissibles, qui peuvent d'ailleurs expliquer aussi comment la reproduction, la régénération des tissus conserve beaucoup de propriétés des cellules. Donc, modifications épigénétiques et hasard, les deux étant étroitement liés. Donc, finalement, une révision assez profonde sur le fond de cette interaction entre génétique et environnement, avec des éléments qui, bien sûr, devront être précisés dans l'avenir au niveau moléculaire. Je pense qu'il est important d'essayer, dans la mesure où on peut le faire, de se rapprocher des observations scientifiques expérimentales qui viennent compléter toutes les autres approches qui ont été beaucoup évoquées lors de cette réunion.
Vous venez d'entendre Jean-François Bach, immunologiste, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, sur les ressemblances et les différences génétiques des vrais jumeaux, qui suscitent toujours autant de questions. Jean-François Bach s'est exprimé dans le cadre d'un colloque consacré à l'identité changeante de l'individu, qui s'est déroulé fin janvier 2008 à la Fondation Simone et Cino Del Duca à Paris. Restez sur Canal Académie et écoutez les interventions des confrères de Jean-François Bach, Bernard Roch, professeur des sciences pharmaceutiques et biologique, membre de l'Académie des sciences, s'exprime sur la question des drogues et de la recherche d'identité. François Gros, généticien, membre de l'Académie des sciences également, développe la question de la génétique qui nous rend à la fois si semblables et différents. François Théré, juriste, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, s'exprime sur l'identité dans les textes de droit. Enfin, son éminence, Marcello Sanchez Sorondo, chancelier des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales, développe quant à lui une possible réconciliation sur la notion d'identité pour les scientifiques et les philosophes. Toutes ces interventions sont sur le site de Canal Académie en libre téléchargement. Merci de votre écoute et à très vite pour de nouvelles émissions.